vous nous avez présenté, décrypté en quelque sorte, Guernica. Aujourd'hui, vous allez nous parler de ces extraordinaires portraits. Claudine, merci d'être parmi nous et nous allons vous écouter.
Silence. Regardez, regardez. Le portrait tel que nous l'avons appris dans notre éducation et dans notre culture, c'est essayer de joindre la proximité des apparences et de présenter quelque chose de la personnalité de celui qui, trop heureux d'être représenté par un peintre, s'assied et pose comme un modèle. Rien à voir avec Elena Rubinstein, dont vous voyez ici les dernières épreuves dessinées par Picasso, qui a réalisé la seule commande qu'il ait jamais acceptée. Car, et vous allez être étonné, en effet, le portrait d'habitude résulte d'une commande faite par le commanditaire qui veut se voir en peinture, c'est le cas de le dire, et qui attend le résultat. Rien à voir. Picasso ne peint pas sur commande. Les portraits peints par Picasso, nous allons le voir, sont d'une autre origine. Mais là, il avait accepté. Et c'est en 1955, alors que Elena Rubinstein est déjà très âgée, qu'elle arrive à obtenir l'accord de Picasso et qui, pendant 3 jours, va s'évertuer à croquer quelque chose de cette fantastique chef d'entreprise hongroise qui était Elena Rubinstein, d'origine hongroise, dont on reconnaît quelque chose de l'apparence, avec le chignon austère que certains d'entre vous ont dû voir dans des photos de Paris Match ou de je ne sais quel magazine. En revanche, est-elle cette femme tendue, nerveuse, voire exaspérée, dont on aperçoit ici un autre visage dans son propre profil? Mais non, c'est celui de Picasso. Car vous allez voir que souvent les portraits que fait Picasso sont une extension de son propre moi, qui est un moi volatile, qui dépasse les frontières que nous mettons, nous, chacun, à notre moi, vaille que vaille, et qui souvent va chercher dans celui qu'il représente quelque chose de lui. Ben, vous voyez qu'il n'est pas très content. C'est le moins qu'on puisse dire, il est exaspéré. Et cette exaspération, il l'a donnée à son modèle. Et dans ce modèle, nous trouvons la formidable vitalité de cette main et de ce crayon, de ce fusain qui dessine en un temps 3 mouvements, et le visage, la forme du visage d'Elena, et les yeux furieux de Picasso. Ça va être un des éléments clés de notre découverte des portraits, que de découvrir que les portraits n'ont plus rien à voir à partir de Picasso à ce qu'ils étaient jusqu'au XIXe siècle. Et notamment, qu'ils ne résultent d'aucune commande. Donc, ça change tout. Parce que les commandes, c'était entre un professionnel peintre et puis le commanditaire, quelqu'un que ne connaissait pas le peintre, mais qui posait avec entre les deux, un immense espace de non-dit, de non-connu. Vous voyez, aucune relation. C'est le contraire qu'on va voir avec Picasso. Picasso est un homme qui ne peut pas peindre d'autre que ce qu'il connaît, de ce qu'il aime ou déteste, c'est-à-dire de proche, d'une façon ou d'une autre. Et la peinture de portrait chez Picasso va avoir affaire avec sa vie. Forcément. C'est donc une des lignes que nous allons tirer dans ce parcours du thème de Picasso et le portrait, tandis que autre ligne que nous allons tirer et que j'évoque aussi dans cette introduction, car elle sous-tend tout le travail de Picasso, c'est que nous sommes au début du XXe siècle, ici en 1917, au retour de Rome où il a connu Olga Koklova, danseuse des ballets russes, avec laquelle commence une histoire qui arrivera et ira en 1918 jusqu'au mariage, avant que le couple ne se défasse plus tard. Olga Koklova pose dans l'atelier de Montrouge. Picasso commence à avoir une certaine aisance, nous sommes en 1917, il est déjà connu d'une série de collectionneurs, parmi lesquels ô combien célèbres Vollard, mais aussi Kahnweiler, Oude et beaucoup d'autres. Il a donc un atelier à Montrouge et Olga pose dans l'atelier. C'est Picasso qui prend la photo. Picasso est un photographe. Il aime la photo, il adore ça, mais il ne va pas copier la photo. Alors regardez bien cette photo, vous voyez comment elle est assise, regardez la robe qu'elle a revêtue, regardez ses chaussures élégantes, regardez la tapisserie du fauteuil sur lequel elle est assise, et puis regardez tout ce qui l'entoure. C'est un joyeux désordre d'un atelier. Il y a, si vous les voyez, des statues de bois africaines, il y a toute une série de choses qui traînent par terre. Eh bien, voilà ce qu'il en fait. Ça n'a plus rien à voir. Picasso utilise la photo pour réfléchir sur le portrait. Et nous sommes donc à cette époque formidable, parce que la photo va délivrer le peintre de l'obligation de représenter l'apparence. La photo fera beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Et donc le portrait va devenir autre chose. Et surtout quand on s'appelle Picasso. Donc vous voyez ici, regardez ce qu'il a fait. Imaginez-vous, vous êtes le peintre, vous avez la photo qu'on a vue sous les yeux, et regardez ce qu'il en fait. Vous voyez qu'il enlève toute notion de l'espace. Il préfère ne pas achever, entre guillemets, le tableau. Vous voyez qu'il a unifié la tapisserie du fauteuil et la robe. Il les a rapprochés sur le même plan, et par l'intermédiaire notamment de l'éventail. Si on regarde attentivement et qu'on est très curieux, on peut remarquer qu'il a modifié des tas de choses. Il a baissé la tête pour qu'on voit la raie des cheveux. Oui. Mais on n'a pas l'impression qu'elle est baissée, mais pour qu'on voit les cheveux comme ça, il faudrait qu'elle soit comme ça. Donc, il a modifié, joué avec les formes, les apparences, pour créer une image dont l'origine vient d'une photo. Mais cette image est une image peinte, c'est un portrait peint par Picasso qui n'a plus rien à voir. Et désormais, dans le monde de Picasso, la photo et une aide, un outil, et n'est qu'un outil, mais parfois excessivement important. Voilà ces deux lignes que nous allons tirer un peu tout le temps et que nous allons découvrir petit à petit, dont je vais vous donner l'idée du plan. Après cette introduction, ce que j'aimerais, c'est revenir à l'une des choses qu'on a dit en premier. Picasso ne peint pas sur commande, donc les portraits sont toujours des portraits de gens qu'il connaît. Et donc, Picasso représente ses proches. Il a à peine 15 ans. Diable. Il a à peine 15 ans. Je n'ai jamais peint comme un enfant, disait-il. On peut comprendre, en effet, qu'il représente sa mère bien-aimée. Et pour représenter sa mère bien-aimée, il peint comme un peintre espagnol qui a appris avec son père. Son père était professeur de dessin. Et ensuite, il est monté, on dirait en France, à Madrid. On monte à Paris, mais là, je ne sais pas si on monte à Madrid. Il était à Barcelone. Il est allé à Madrid pour travailler, apprendre son métier. Il n'est pas resté longtemps à l'Académie San Fernando. Mais néanmoins, il en a acquis progressivement, avec son père et l'Académie, des bases indéniables d'un savoir-faire éblouissant qui est celui du pastel. Ce pastel qui a une douceur, qui est une façon de parler de sa relation avec sa mère. Regardez son père, Don José, le père, le professeur, celui qui va représenter presque jusqu'à sa mort, déguisé. Pour le savoir, il faut connaître beaucoup de choses sur Picasso. Mais peu de temps avant sa mort, il y a un personnage dont on hésite à savoir si ce n'est pas Don José ou bien un graveur. Et ce profil notamment qu'il a choisi de positionner en le soulignant, regardez, avec une force, une puissance graphique qui est encore celle d'un enfant de 15 ou 16 ans, d'un jeune homme de 15 ou 16 ans. Voilà donc ce jeune Espagnol, Espagnol par les couleurs, Espagnol par cette couleur terre, brune, beige, qui est définitivement espagnol, et ce réalisme fin de siècle espagnol que l'on connaît fort bien avec le travail d'autres peintres. Alors, les proches, ce seront quelques enfants qu'il aura avec quelques femmes différentes, dont ici Paul, le premier fils qu'il a, dans un dessin qui date, excusez-moi, je cherche, de 1922, et qui est à nouveau une espèce de pastel, enfin j'ai mis pastel, mais c'est pas tout à fait un pastel, mais qui a cette extraordinaire capacité à gonfler les joues de l'enfant, ce tout petit enfant dont les joues rondes sont évocatrices de l'âge et que vous retrouvez dans un dessin d'une maîtrise totale. Et puis, non seulement sa famille, on reviendra notamment sur des membres, mais ses amis et les amis proches, ceux qui vont l'entourer dans les premières années à Paris. Vous savez qu'il arrive à Paris en 1900 pour accompagner un tableau de lui. Il est né en 1881, il a 19 ans, et il va rester à Paris malgré des va-et-vient avec Barcelone, qu'il quittera définitivement en 1904. 1904, il s'installe à Paris, à Montmartre, au bateau Lavoir, et il va avoir une bande de poètes, au rendez-vous des poètes, ce qui est écrit au-dessus de la porte d'entrée du bateau Lavoir, puisque poètes il y a qui soutiennent les audaces des jeunes peintres, et notamment de Picasso, en marche vers le cubisme. Il y a André Salmon, il y a Max Jacob, il y a Apollinaire. Les voilà, ces rendez-vous des poètes. Et il y a autour des poètes des amis de toujours, que l'on trouvera presque à la veille de sa mort. Donc des amis comme ici, je vérifie l'orthographe, Jaime Sabartes, que vous voyez dans un très beau portrait qui a abandonné la palette espagnole au profit de cette palette bleue qu'on a dénommée la période bleue et qui ouvre la période parisienne. Dans les premières années du XXe siècle, ce bleu mélangé d'un peu de rose qui deviendra après la période bleue, la période rose, Jaime Sabartes va repartir à Barcelone, vous voyez qu'il est catalan, et partageant la vie de Picasso, il l'abandonne, il en a un peu par-dessus la tête, il l'abandonne et va partir en Amérique du Sud pendant près de 30 ans. Il reviendra 30 ans plus tard pour devenir le secrétaire particulier de Picasso. Jaime Sabartes a été représenté plusieurs fois au début de sa relation avec Picasso, à la fin, au milieu. Et nous sommes ici au moment où le jeune homme a fait place à l'homme dans un portrait extrêmement sensible au niveau de l'expression. Et puis voilà que Picasso est embarqué, toujours au milieu de ses proches, dans l'aventure du cubisme. Et cette aventure du cubisme, il va l'approcher dans le portrait. Excessivement difficile que de peindre le portrait de quelqu'un émietté en autant de facettes. Il y a un problème ? Non. En autant de facettes décomposées du volume initial. Ah, regardez, on le voit bien. Vous le reconnaissez peut-être, Ambroise Vollard. Il a tellement aimé être peint. Cézanne, Bonnard, Picasso. Mais Picasso, il a utilisé une photo. Une photo qu'il a prise dans son atelier, où il a fait poser Vollard. Alors, il y a quelque chose du réalisme initial de la photo que l'on peut retrouver notamment dans l'approche du crâne. Voyez, qui nous permet, ainsi que la bouche, les lèvres fermées, pincées, et le nez un peu écrasé, qui nous permet de reconnaître très vite Ambroise Vollard dans ce portrait éblouissant de virtuosité. Imaginez comment vous faites ces noirs, ces gris, ces blancs, ces argentés, ces beiges, qui compose la solide charpente d'un des plus grands galeristes de tous les temps à Paris, Ambroise Vollard. Ses proches, c'est aussi un autre galeriste, Kahnweiler, qui va devenir un de ses marchands les plus importants et qui vient d'Allemagne. Kahnweiler, qui avant la Première Guerre mondiale, est l'un des principaux proches dans le monde de la peinture de Picasso. Eh bien, vous voyez que là, Picasso a beaucoup plus de mal. Il n'a pas utilisé la photo. Il a fait une photo de Kahnweiler. Et on les a, les photos. Mais il n'a pas utilisé la photo. Et cet exercice, il a essayé de faire un portrait cubiste. Au moment où le volume se décompose dans le cubisme en quantité de facettes, comment faire pour laisser surgir l'apparence, peut-être, quelque chose de quelqu'un? Eh bien, il le connaissait très bien, et Kahnweiler était un homme très élégant, très bien coiffé, avec des vagues dans les, des cheveux bien peignés, gominés un petit peu. Et regardez, vous les retrouvez. Vous les retrouvez dans la partie supérieure, voyez. Et il s'asseyait, il était vêtu d'un costume élégant, il s'asseyait et croisait ses mains sur les genoux. Et on a des photos qui s'approchent un petit peu de cette composition. Mais vous voyez que c'est un jeu qui peut être dangereux parce que la personne peut disparaître. Donc, Picasso n'explorera pas très longtemps avec ses proches le portrait cubiste. En revanche, pour certains de ceux qu'il aime beaucoup, il va utiliser son crayon, une mine de plomb, du fusain, qui sont ses deux moyens privilégiés de faire du dessin, et notamment pour représenter, alors là, avec une force traditionnelle, Igor Stravinsky, dont vous reconnaissez peut-être, si vous l'avez vu en peinture, le visage solidement charpenté, le gros nez, la forme en ovale du visage, tel qu'il pouvait être lorsqu'il venait rue de la Boétie, parce que Picasso est descendu de Montmartre. Maintenant, il gagne bien sa vie, un atelier à Montrouge, on le sait, et il habite dans le quartier très bourgeois de la rue de la Boétie, un appartement classiquement bourgeois. C'est sa femme, Olga Koklova, qui venait d'une famille de la noblesse russe, qui voulait absolument avoir un appartement digne de ce nom. On a du mal à imaginer Picasso, mais on a beaucoup de dessins qu'il a fait à cette époque. Et cette époque-là, c'est l'époque du retour après le cubisme au néoclassicisme. C'est l'époque du triomphe du dessin classique, mais un dessin qui modifie un peu à la façon d'une caricature pour accentuer certains traits, en diminuer certains, qui, d'une façon ou d'une autre, cherche à faire du modèle une figure peut-être universelle. En tout cas, il s'agit ici, on le reconnaît bien, du portrait d'Igor Stravinsky, qui est mine de plomb, qui est un médium très sec, la mine de plomb, et le fusain, au contraire, très gras, donc ça permet des effets très différents, de nous donner une superbe image, extrêmement vivante et très forte, du musicien et du célèbre compositeur qu'il était en train de devenir. Parmi ses proches, ben lui, bien sûr, la famille, les amis très proches, poètes, musiciens, et puis l'autoportrait, bien sûr. Alors là, il n'a pas besoin de commande. Eh bien, la plupart des autoportraits, il en a fait une trentaine, ont été faits dans la première partie de sa vie. Première partie de sa vie avec quelques célébrissimes portraits, je vous les fais défiler parce que beaucoup sont très connus, comme ce portrait de 1901, il a 20 ans. La mine cadavérique, hâve, regardez ce visage, comme s'il rentrait pour s'en aller très vite. Vous voyez qu'il n'est pas installé face au dessinateur, il est de trois quarts. Et si son visage émerge de cette période bleue, tout le reste disparaît. Les mains, les épaules, les bras, on ne voit rien du tout, mais tout est centré sur un visage dramatiquement vieilli d'une période bleue qui est une période où domine le deuil, la tristesse, l'angoisse que le bleu symbolise. Rien à voir, le voilà qui a repris l'énergie que sa vitalité lui donne de façon évidente. Le voilà en hommage à Cézanne, dont il rappelle le célèbre portrait à la palette qu'avait peint Cézanne quelques dizaines d'années auparavant. Cet autoportrait à la palette date de 1906. Et voyez comment il vous la montre, sa palette. Il tourne son poignet pour la mettre pratiquement parallèle au plan du tableau. Regardez, l'artisan, ce n'est pas l'artiste recherché avec des effets de manche, c'est un jeune artisan planté. Regardez comment la tête est posée sur un socle. Ce socle que constituent ses épaules, qui sont presque horizontales par rapport à la verticale de la tête, ça, ce n'est pas dans la réalité, bien sûr. C'est lui qui le fait. Cet angle droit très puissant, souligné par le trait noir sous le menton, qui donne encore plus d'intérêt à cette assise de la tête sur le soubassement. Comme si, ou presque, nous avions une sculpture. Et pourquoi pas, ce serait pas loin d'être un jeune sculpteur. Vous voyez que la tenue peut être celle d'un artisan, d'un jeune artiste qui est en plein travail, dans ce camailleux de blanc, de gris, qui affirme une vitalité que la composition du portrait souligne de façon évidente. Et puis, à l'époque du cubisme, alors là, il affirme qu'il est en marche vers autre chose. Regardez, autant le portrait précédent en 1906 était celui d'un jeune affirmant sa maîtrise de la peinture et sa proximité avec les grands maîtres du passé, dont notamment Cézanne, auquel il fait allusion directement. Autant ici, tout est en marche, tout est en train d'être révolutionné. Tout, c'est-à-dire, eh bien, vous voyez qu'il a approché au maximum le visage, comme si on avait un gros plan où l'appareil de photo est presque à quelques dizaines de centimètres du visage, de telle sorte que les yeux ont l'air exorbités. Remarquez qu'ils sont différents et qu'ils ne sont pas à la même hauteur tout à fait. C'est voulu, bien évidemment. Que le visage est taillé à la serpe, on imagine, vous savez, le travail d'un sculpteur qui taille un billot de bois, tac, tac. Et pour bien l'imaginer, il y a les raies sur la joue qui évoquent ces plans que le sculpteur peut faire de façon abrupte. Et puis, il y a ce triangle sur le front qui est voulu, bien sûr, avec sa célèbre mèche. Vous savez qu'il attendra les 60 ans, il a de moins en moins de cheveux, pour enlever sa mèche. Tellement il l'aimait. Alors il la mettait d'un côté, il la mettait de l'autre. Bon. En tout cas, vous voyez ce triangle sur le front. Donc, il construit un volume où s'affirme la recherche sur le cubisme et qui est contemporain de tout ce cubisme cézannien que nous connaissons relativement bien. Si nous allons jusqu'au bout, voyez combien ce portrait affirme aussi la passion pour les arts primitifs. Regardez le nez, vous avez vu comment il est le nez? Il a écarté les narines complètement. Il ne l'a pas écrasé, mais pas très loin, parce qu'en même temps, il a affirmé l'arête du nez par plusieurs façons. Donc, on pourrait s'arrêter longtemps sur ce portrait pour voir comment la révolution plastique est en marche, celle du cubisme, dans ce portrait-là. Mais Picasso s'est beaucoup caché dans des portraits où, notamment, il utilise l'habit de l'arlequin. Je vous rappelle que l'arlequin est un personnage connu de la comédie italienne, qui fait partie des personnages classiques qui arpentaient les boulevards parisiens à partir du XVIIe siècle. Les Italiens sont venus à Paris à partir du XVIIe. Et que l'arlequin va devenir une figure artistique, théâtrale, mais en même temps comme un symbole de l'artiste au sens général. Et c'est cet habit qu'utilise Picasso ici et dans très nombreux autoportraits où il donne la main à un petit Picasso, comme si nous avions un dédoublement du portrait, qui pose sa main sur la chienne Frica, qui faisait partie du couple qu'il formait avec Fernand Olivier. Nous reconnaissons un Picasso âvre, décharné, qui est celui de la période bleue, en marche vers la période rose. Havre et décharné, toujours. Nous sommes là en 1905. Auparavant, c'est en 1906, si je me souviens bien. C'est la même date. 1905. Au lapin agile. Pas de nom de portrait. Comment savons-nous que c'est un portrait? Picasso n'aime pas dire. La plupart du temps, il n'écrit pas portrait. Soit il écrit le nom de quelqu'un, Fernande, Françoise. Soit, même pas, il l'enlève, il dit femme. Et là, il enlève complètement toute allusion à sa présence, qui est extrêmement forte, puisqu'il joue l'un des deux rôles, accoudé au café, dans le café du Lapin Agile à Montmartre. C'est une histoire personnelle, celle d'une liaison qui est en train de se terminer avec la jeune femme qui boude, que vous voyez de profil, et Picasso, triste, dans cette période bleue, et encore une fois, dont l'habit est celui de l'Arlequin. Cet habit-là, il va le conserver dans quelques autoportraits à la fin de sa vie. Métaphore de l'artiste qu'il a affectionné particulièrement en se cachant, et à ce moment-là, il faut bien sûr la recherche artistique et historique pour affirmer qu'il s'agit d'un portrait. Alors, je vous propose, maintenant que nous avons vu qu'il représentait ses proches, qu'ils soient amis, qu'ils soient amants, qu'ils soient famille, maintenant que nous savons qu'il ne veut pas imiter la photo et que la photo va le débarrasser de l'obligation de la ressemblance, qu'il va laisser la photo et lui, il va faire autre chose. Maintenant que nous savons qu'il n'accepte aucune commande et que ce qui l'intéresse, c'est les choses qui se passent entre lui et quelqu'un d'autre et qu'il veut les représenter, je vous propose que nous cheminions à la découverte de celles qui ont été le sujet essentiel de ces portraits, les femmes et les femmes, puisque c'est les proches, les femmes de sa vie, forcément. Donc, nous allons simplement nous arrêter parfois, car il y aura des choses très importantes, et notamment sur cette femme en chemise. Femme en chemise. En effet, vous la voyez de profil, avec un profil souligné par le léger rose qu'il utilise environné de bleu, période bleue. Femme en chemise, entre parenthèses, Madeleine. Ah ! De temps en temps, alors qu'il ne veut rien dire de la personne qu'il a représentée, il nous donne l'indice du prénom. Et c'est assez fréquent, mais vous voyez qu'il y a, deux tentatives. Identifier le modèle, mais Madeleine ne suffit pas, il faut savoir qui est-elle et quelle est-elle dans la vie de l'artiste. Et d'autre part, femme en chemise, en faire une image générique. Picasso, très souvent, n'a pas tranché entre ces deux tentations qui sont excessivement fréquentes. Rappelez-vous, il déteste préciser les choses. Il aime l'ambiguïté qui peut planer à propos de l'identification d'une figure. Alors, femme, voilà, se coiffant. C'est un sujet classique des peintres classiques du XVIIe, XVIIIe et XIXe siècle. Oh combien ! Mais regardez comme c'est anti-classique. La façon dont il représente cette femme se coiffant, entre parenthèses, ah, voilà nous, Fernande Olivier, dont nous allons reparler un petit peu. Regardez ce qui est anti-classique. Son visage est comme un masque, voyez, des triangles. Ça n'a rien à voir avec une observation de l'anatomie. Et de même que le triangle du pubis qui répond au triangle des visages, voilà une personne en train de se primitiviser, si j'ose dire, fascination pour la sculpture africaine qui va l'entraîner petit à petit vers le cubisme. Et quelquefois, le portrait devient un jeu de devinettes. Femme en chemise dans un fauteuil. Secouez pas trop la tête, madame, vous allez voir, on voit très bien qui c'est. Femme en chemise dans un fauteuil ou dans un fauteuil en chemise. Est-ce qu'on a une parenthèse? On n'en a pas. Le portrait, car c'en est un, c'est pas une image générique. Cette femme en chemise, nous savons qui c'est, il s'agit d'Eva Gouel. Alors nous savons qui c'est par la recherche historique, artistique qui a été menée bien sûr depuis des décennies sur l'œuvre de Picasso. Et mais nous pourquoi savons-nous que c'est Eva Gouel? Parce qu'elle était délicieusement coquette et elle portait ses petites chemises de nuit blanches en coton, longues, qui étaient, vous savez, brodées, je ne sais plus quel est le point de broderie, mais qui étaient brodées en bas et qui donnaient ces délicats motifs qui ont séduit suffisamment Picasso pour qu'ils les utilisent, et que par là même, ils nous disent « regardez bien ». Il nous dit « regardez bien, elle a ses cheveux longs, mais nous sommes à l'époque où le primitivisme est devenu un attrait considérable. Vous voyez ce qu'il a fait de son visage ? Mais en revanche, elle était malade. Elle était malade, elle était tuberculeuse, elle allait mourir. Et la tête ne tient plus. » Elle était malade, elle était tuberculeuse. Qui était-elle? On le sait très bien, car on a des petits seins dressés d'adolescente et on a des seins de femme fatiguée par ses grossesses. Oui, il nous donne. Et puis, regardez, vous avez vu ce fauteuil Napoléon III, hein, qu'on peut imaginer dans quantité d'intérieur bourgeois, délicieusement rose, pour abriter, vous voyez, la figure qui fait penser à des sculptures, bien sûr, primitives, et qui tient journal les petites caprices de Picasso qui adorait mettre des lettres dans les tableaux à l'époque du cubisme. Et en 1913, on est encore à peu près à cette époque-là. Voilà un portrait devinette, voilà un portrait poétique, voilà un portrait conceptuel, et je l'utilise pour vous introduire à la grande révolution qui va s'opérer dans les années 1905-1915, qui est cette révolution qui abandonne l'apparence du modèle au profit d'un concept, abandon de la représentation, au profit de quelque chose d'autre qui l'a en germe dans ce portrait poétique où on peut deviner la présence de l'une de ses amies de l'époque, Eva Gouel. La révolution, elle s'opère, on le sait très très bien aujourd'hui, à une époque extrêmement précise, celle que date cette tête de paysan catalan de 1906. Dessin de Picasso, qu'il a fait quand il était en été dans les Pyrénées avec Fernand d'Olivier, entre Barcelone et la France, était qu'il passait régulièrement pendant toutes ces années où il vit avec Fernand d'Olivier. Cette révolution, elle a utilisé un certain nombre de figures. Et parmi ces figures, une très célèbre, d'origine paysanne, qui était devenu aubergiste, et qui était en même temps qui trafiquait, qui était un contrebandier, tout à la fois. Il a été fasciné par une chose, non pas par la contrebande, mais par son visage. Et voyez le visage, la façon dont le peintre a marqué les pommettes. Pardon. Vous voyez là, combien le visage est très osseux. Le nez, regardez ce nez qu'il a déjà utilisé pour son portrait à lui, ces lignes très, très puissantes. Et l'ensemble du visage qui a une architecture considérablement forte. Eh bien, un jour, il rêve que le contrebandier est mort. Ce paysan catalan, il va faire son masque mortuaire. Il n'est pas mort, mais il fait des variations. D'accord ? Et vous voyez comment il est passé de l'un à l'autre. C'est ça qui est extrêmement intéressant. Il est passé de l'un à l'autre à travers la fréquentation qu'il a des œuvres africaines qui viennent à Paris progressivement à partir de 1904 et que Picasso va petit à petit connaître, étudier et dont il va s'inspirer largement. Et dans l'inspiration, vous voyez l'extrême simplification qu'il a opérée à partir du visage précédent. Alors bon, ben vous voyez qu'on pourrait en faire le masque mortuaire, tout à fait. Et vous voyez que petit à petit, on abandonne l'apparence du modèle. Et le masque, il va le plaquer sur le visage d'une femme qui s'appelle Gertrude Stein. Alors Gertrude, c'est à cette époque-là, on est en 1905, si je me souviens bien. Oui, 1906, à cette époque-là, Gertrude découvre, c'est une Américaine qui est à Paris, qui habite à rue de Fleurus, et qui est passionnée de peinture et de peinture moderne. Donc elle fréquente Vollard, Kahnweiler et les autres, et un jour elle tombe sur Picasso, qu'elle invite chez elle, alors qu'elle est déjà fan de Matisse, la voilà qui s'entiche de Picasso. Et de lui demander de faire son portrait. Ça tombe mal parce qu'il déteste ça, mais elle va le convaincre. Et Picasso monte, Gertrude monte tous les jours à Montmartre, car elle lui a dit « D'accord, mais c'est vous qui venez, c'est pas moi qui descends. » Donc Gertrude monte depuis la rue de Fleurus jusqu'à Montmartre tous les jours. Et l'histoire de ce portrait, on la connaît par cœur. Un jour de la fin de l'été, avant qu'il parte en vacances dans les Pyrénées, il lui dit « Écoutez, plus je vous vois, moins je vous vois. » Car elle posait. Il en a marre, il tourne le portrait, c'est un format de chevalet, il le tourne contre le mur, il part avec Fernand en vacances. Et quand il revient, il fait le visage, c'est juste ce qui manquait. Il avait tout fait, il avait laissé le visage en plan, et en sans l'avoir, sans même lui demander de monter, car il n'a pas besoin du modèle, car le portrait devient un portrait conceptuel, eh ben de la pape de l'art primitif. Et la voilà, Gertrude, transformée par ce visage qui pourrait être celui du paysan catalan, qu'il a plaqué sur elle, comme une icône de l'art moderne en marche. « Il ne me ressemble pas, » dit Gertrude. « Il vous ressemblera, » dit-il. Bon, et puis c'est pas idiot, parce que quand on voit des photos de Gertrude 10 ans plus tard, il y a quelque chose. Bon, mais en même temps, c'est pas elle, mais c'est elle. Alors, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire-là, elle brise les codes du portrait, elle en invente d'autres. Et elle va nous permettre d'entrer dans la compréhension de tous ces portraits de femmes que Picasso nous a laissés. Mais auparavant, dernière démonstration de toujours cette rupture, eh ben voilà André Salmon. Alors, André Salmon, je vous dis, c'est un rendez-vous des poètes. Hein, il y avait Max Jacob, il y avait Salmon, il y avait Apollinaire. Et André Salmon était un des plus fervents soutiens de Picasso dans l'aventure des Demoiselles d'Avignon de 1907, où il a posé devant le tableau dans son atelier, et celui qui comprenait mieux l'aventure du cubisme. Donc, quelqu'un qui est très proche et très engagé dans l'art moderne, ben vous voyez ce qu'il en fait. Il en fait une statuette africaine et occidentale à la fois. Il a transformé André Salmon en une icône de l'art primitif africain. Ça n'a plus rien à voir avec sa ressemblance, absolument pas. C'est un concept qu'il est en train de nous faire voir, moyennant quoi c'est prodigieux d'intelligence graphique. Et avec ces deux exemples de Gertrude et de André Salmon, je vous accompagne à la découverte de ces portraits conceptuels. Pas tous, car il y a des périodes où il revient à l'art traditionnel, au néoclassicisme, comme vous le voyez ici. Et nous allons prendre un chemin chronologique à la découverte de la plupart des femmes qui ont vécu assez longtemps avec lui. On passe sur toutes les autres dont les portraits ne sont pas forcément toujours parlants. Et nous commençons par Fernande Olivier. Elle s'installe avec lui en 1904 au bateau Lavoir et elle va vivre avec lui jusqu'à la Première Guerre mondiale. Après, les choses se mettent à changer. Portrait de Fernande, mine de plomb. Oh Goya, oh Goya, comme tu es prêt. C'est le premier artiste espagnol qui le fascine lorsque Picasso monte de Barcelone à Madrid pour aller étudier à l'Académie San Fernando. Et il y aura aussi Velázquez, mais il y aura aussi Greco. Et vous voyez que nous avons entre des images du Greco émacié au visage allongé aussi. Nous avons là une série d'influences de ce bain dans lequel le grand artiste a pénétré et qui va faire naître ces images à plusieurs origines. Fernande, encore elle, qui devient la déesse d'un primitivisme érotique dans ce magnifique portrait qui s'intitule « Grand nu debout ». Pas portrait, et pourtant c'est elle. C'est Fernande dont les proportions ont été allongées pour en faire ce beau nu et dont le visage reprend la simplification extrême des masques que nous avons vus précédemment. Fernande, qui vit à l'époque du cubisme et du primitivisme, va être la figure féminine la plus modifiée par cette démarche d'un portrait conceptuel. Vous voyez que là, on est en plein concept. Dans cette étude tête de Fernande, bronze, qui est résolument cubiste. Au cubisme succède la période néoclassique des années 1915-1925, à peu près, et certains très grands portraits néoclassiques font aujourd'hui la célébrité de cette période-là. Notamment ce portrait d'Olga Koklova, rencontrée en 1917, ballerine des ballets russes. Elle est à Rome, où les ballets russes se sont installés pour plusieurs représentations, et où Picasso est allé avec Jean Cocteau pour réaliser le rideau de scène d'un opéra Parade. On n'a pas le temps de parler de tout ça, mais Picasso est à Rome, c'est là où il rencontre Olga Koklova, fille d'un officier du tsar, de la grande noblesse russe, et c'est ainsi que le couple va se former. Olga, au trait bien affirmé, au visage clairement défini par les lignes anatomiques, va être pour Picasso un modèle qui ne pose pas, car elle n'a posé pour aucun de ses portraits. Picasso conçoit le portrait de quelqu'un sans la personne. Vous voyez la fermeté du dessin, comparable à celle du portrait de Igor Stravinsky, de la même période exactement, et avec la même technique. Quand la tentation d'un retour à l'antique est forte, ainsi que la pratique de la sculpture chez Picasso, on voit surgir ces grandes femmes au volume ample. Ce n'est pas le cas encore, car c'est Olga, si on en est certain, oui, cette fois-ci, portrait d'Olga, 1923. Un portrait modifié largement par rapport aux apparences, à la réalité, pour en faire une image où, regardez, les mains ont une importance considérable, sont très larges, très présentes, et le visage, en revanche, très marqué par les jeux d'ombre et de lumière, loin de l'observation du réel, mais proche du sens plastique, du volume. L'artiste crée une image qui n'est plus la ressemblance et qui pourtant l'est encore un peu. Et alors là, ah, si vous voyez la photo qui a été au départ de ce portrait, vous seriez impressionné. Nous sommes dans les années 30, Olga sait qu'il y a Marie-Thérèse Walter depuis longtemps, elle récrimine, elle veut le divorce, elle demande beaucoup d'argent, rien ne va comme elle ne veut. Et le visage d'Olga est très très souvent un visage tendu et triste. Eh bien, c'est ce visage tendu et triste que Picasso a noté dans la photo et qu'il va tenter de traduire dans un de ses portraits conceptuels intitulé « Femme au chapeau » entre parenthèses, Olga. Là, il nous dit de qui il s'agit. Mais comme nous avons la photo aussi. Voyez l'extraordinaire expressivité avec des moyens aussi simples. Avouez que ce n'est pas compliqué. Hein, et qu'il a peint des pans en aplat. Vous voyez les yeux qui sont d'une infinie tristesse. On a envie de la prendre dans nos bras. Elle est une image pitoyable. L'expressivité possible que Picasso donne à ses portraits conceptuels est une des plus grandes inventions plastiques qu'il ait jamais réalisées. Alors, bien sûr, on comprend qu'elle soit triste. Vous voyez l'image de la jeunesse, l'image de la santé, l'image d'une certaine joie de vivre. C'est Marie-Thérèse Walter dont je vous montre une photo. Car vous allez pouvoir vous promener entre la photo et puis ce que Picasso va en faire. À l'époque du néoclassicisme, il réussit là encore une des plus belles images de cette jeune fille qu'il rencontre à côté des Galeries Lafayette en 1928, alors que ce soit peut-être en 1926. La jeune fille est toute jeune, c'est une adolescente, et Picasso est déjà un homme fait. Cette photo de Marie-Thérèse au béret est un fusain. Vous voyez ce fusain qui est un médium un peu gras, qui vous permet des effets de douceur, que vous voyez, par exemple, pour le cou, vous voyez les ombres, ça c'est le fusain. La mine de plomb ne peut pas du tout faire ça. Et vous voyez comment elle a baigné une partie du visage dans une légère pénombre et l'autre en pleine lumière. Alors il s'agit bien sûr d'un idéal. C'est une image complètement idéalisée qui pourrait être appelée visage de femme. Point. Car certes, on peut le rapprocher de Marie-Thérèse dont vous avez vu une photo. Mais en même temps, vous voyez comment il s'en est éloigné dans la réalisation d'une harmonie, d'une symétrie qu'il recherche au cœur du néoclassicisme. Et alors là voilà la poésie. Là voilà l'inventivité extraordinaire de cet artiste. À l'époque du surréalisme, il va lâcher la bride à son imagination qui introduit des idées de la femme aimée à la place de son visage. Alors, il s'agit toujours ici de Marie-Thérèse, mais elle est appelée baigneuse au ballon. L'œuvre date de 1932. Picasso avait pris l'habitude d'aller sur la plage à Royan avec Marie-Thérèse et ensuite avec la petite Maya, qui est la petite fille que Marie-Thérèse aura de sa vie avec Picasso. Eh bien, la plage de Royan, elle est là. Elle est là à travers quoi ? L'idée d'une cabine. Car Marie-Thérèse allait se déshabiller dans une cabine et les plages étaient fort utilisées à l'époque. Cette idée de la cabine, car vous voyez que la cabine, elle est repoussée, mais elle est là. Pour laisser se déployer cette étonnante figure, pleine de jeunesse, pleine de joie de vivre, qui est ce que Picasso perçoit de Marie-Thérèse et ce qui le fascine. C'est donc bien une sorte d'extension de Picasso, dont le portrait donne l'image de ce qu'il ressent. Avouez que c'est quand même énorme. Attendez, le portrait, normalement, on montre ce qu'est la personne qui pose. Eh bien non. Vous voyez que ce moi protubérant de Picasso, car là, dans ce domaine-là, le moi, il y allait. Mais ce moi protubérant s'étend jusqu'au modèle qu'il modifie dans son apparence pour lui donner l'apparence de ses propres sentiments vers elle. Rien que ça. Donc, c'est une audace inimaginable et en même temps, ça donne des figures, vous allez voir, c'est parmi les plus belles figures rêvées de la relation homme-femme dans cette année 1932. Voici, on passera un peu plus vite, femme avec un livre. Alors, pourquoi sait-on que c'est Marie-Thérèse? Car vous voyez, femme avec un livre. Pourquoi sait-on que c'est Marie-Thérèse? Tout simplement parce qu'il y a, un, les courbes, deux, les couleurs. Alors, Marie-Thérèse est toujours représentée avec des courbes, jamais des droites. Et vous voyez qu'ici, les courbes s'en donnent à loisir pour composer une image gracieuse et en même temps une image avec un volume important. Le deuxième, les couleurs. Les couleurs de Marie-Thérèse sont soit des couleurs pastels, il n'y en a pas beaucoup là, soit des couleurs où on se marie les couleurs complémentaires, le bleu et l'orange. Ça, ce sont... Car les portraits de Picasso, qui ont tendance de plus en plus à se concentrer sur les femmes de sa vie, sont des portraits qui racontent son histoire. Là, vous voyez bien que le peintre est follement amoureux. C'est un sujet banal par excellence. Tous les peintres classiques l'ont fait, avec leur mère en train de lire un livre, ou leur ami. Enfin, c'est un sujet qu'on a vu et revu. Et cette élégance-là, regardez, avec le bras, évoque quelqu'un qu'admire beaucoup Picasso et qu'il a découvert en 1905, c'est Ingres, Madame Moitessier. Ça vous dit peut-être quelque chose. Et oui, il y a Ingres derrière. Donc, vous voyez la complexité de l'inspiration d'un grand artiste dont le portrait devient portrait conceptuel et en même temps va plonger et chercher des éléments dans le souvenir d'Ingres. Alors, l'année 1932 est, je dirais, en singeant un peu Jane Birkin, à l'année érotique. Ben oui, ça paraît évident, mais c'est une année érotique qui me semble beaucoup plus audacieuse et beaucoup plus riche, vous permettez, que celle susurrée par Jane Birkin et par Serge Gainsbourg. C'est celle de ces portraits totalement conceptuels, poétiques et sensuels à un point inimaginable qui représentent non pas Marie-Thérèse, mais l'idée de la femme que Picasso a en la regardant, en la voyant, en vivant avec elle, et où la sensualité s'exprime par des concepts comme notamment la plante verte, la jeune plante verte qui pousse, rafraîchissante, comme une oasis dans le désert, tandis que l'aimé a, vous l'avouerez volontiers, une anatomie bizarre qui permet d'aligner les lieux de son désir. Bien sûr, un homme amoureux, et vous voyez comment il va dire combien il désire ce corps. Tandis que la blondeur de Marie-Thérèse est très légèrement rappelée et que son cou, son visage en arrière, ses bras derrière la tête évoquent ces poses très érotiques de grands modèles, mais aussi les poses des héroïnes, des modèles de, d'Ingres, qui insistent sur le cou et la tête basculée vers l'arrière. Là encore, les références à Ingres sont nombreuses. Voyez cette image fraîche et glorieuse à la fois, faite de douceur et de sensualité, qui est une des grandes images de 1932, qui est véritablement l'année érotique dans l'histoire entre Marie-Thérèse et Picasso. Alors, peu conceptuelle, elle ressemblait beaucoup à sa mère, mais en même temps beaucoup à son père. Vous avez peut-être vu des photographies dans Paris Match ou autre chose, puisqu'elle a fait une donation importante au musée Picasso, Maya. Mais ce qui est intéressant ici, c'est que si le portrait n'est pas complètement conceptuel, car on voit la petite fille en train de jouer avec sa poupée, remarquez que la poupée a les yeux immobiles, tandis que la petite fille, elle fait ça. Elle est vivante, tandis que la poupée n'est pas vivante. Voilà. Juste un petit moyen de vous rappeler la différence. Alors, parmi toutes les femmes de Picasso, il y en a certaines qui n'ont pas partagé sa vie. Je vous montre les portraits de l'une d'entre elles extrêmement intéressants. Vous la voyez ici dans une photo absolument magnifique, puisqu'elle s'appelle Nuche Éluard. Elle avait épousé Éluard et par là même était très proche du cercle de Picasso. Elle est ici photographiée vers 1935. C'était, de toutes les photos qu'on a vues et de tout ce qu'on sait, une très jolie femme qui savait son charme et qui en usait pas mal. Eh bien, voilà un portrait de Nuche. Voilà un portrait de Nuche Éluard qui est intitulé « Portrait de Nuche » et qui date de 1937. Regardez le visage. Regardez cette insistance sur une jeune femme qui cherche à plaire, qui plaît, maquillée, au sourire recherché. Regardez cette image d'une certaine féminité que ressent Picasso et qu'il traduit. Regardez comment il la traduit par ce visage de profil et de face. Regardez les yeux. Ça avait un de profil, l'autre de face. Voyez, suggérant ce mouvement de la vie, cette vitalité, et regardez comme elle est en même temps avec une lumière lunaire, hein, ce blanc du visage, et en même temps ce jaune d'or, comme un soleil qui l'entoure, tandis que l'élégance qui était la sienne est traduite par ce petit chapeau, dans la partie supérieure, portrait conceptuel, mais les sentiments de Picasso changent par rapport à ses modèles. Et il suffit d'un dialogue qui ne lui a pas plu, d'un moment où il a été énervé, pour que Nuche lui apparaisse autrement. Et c'est toujours Nuche que vous avez ici, le portrait de Nuche, qui date de la même époque, mais on a l'impression d'avoir une mante religieuse cette fois-ci. Regardez. Et vous voyez comment il va traiter ce portrait de Nuche avec un visage sur un triangle posé sur un soubassement, tandis que la chevelure, elle soignait ses cheveux, qui étaient des cheveux assez fins, alors elle se plaignait, il fallait qu'elle les lave tous les jours, qu'elle leur fasse des traitements et tout, et traitée presque comme un élément d'une... venu on ne sait d'où. Est-ce que ce sont des cheveux, est-ce que c'est autre chose? Encore une fois, le procédé est le même pour diviser le visage. Vous avez vu? Un œil de profil, l'autre de face. Mais dans un cas, on a une image solaire. Dans l'autre cas, on a une image un peu terrifiante. C'est la même personne. C'est les sentiments que Picasso peint, ceux qu'il éprouve en pensant à Nuche. Alors, elles se succèdent, et dans cette grande période du surréalisme, qui est celle qui nous approche de la Seconde Guerre mondiale, Marie-Thérèse disparaît, entre guillemets, au profit de Dora. Dora Maar, qui est une photographe, qui va prendre des tas de photos, notamment de Guernica. Elle va prendre toutes les photos de Picasso réalisant Guernica dans l'hôtel des Grands Augustins, à Paris, sur la rive gauche. Et la voilà dans une magnifique photo. Il y a beaucoup de photos qui ont été faites de Dora, qui était, comme vous le voyez, une très belle femme, très différente de toutes les précédentes. et qui va devenir une figure qui entrera toutes les années d'avant-guerre chez Picasso. Voici dessiné ce magnifique portrait de Dora Maar, mine de plomb et papier. Cette fois-ci, pas de fusain, mais vous voyez la finesse de la mine de plomb, qui est très claire, qui lui permet de suggérer le volume. Là, la ressemblance n'est pas loin. L'apparence est proche. Quand elle a relevé ses cheveux et qu'elle dégage son cou, c'est un peu son apparence. Mais vous voyez qu'on est loin de cet autoportrait que Dora a pris dans un miroir et qui rappelle qu'elle était une photographe. Eh bien, la voilà telle que classiquement on va la reconnaître dans ce portrait de Dora Maar, assise, 1937. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux portraits faits en même temps, deux femmes assises et deux femmes encadrées dans des espèces d'espaces bizarres avec ces lignes colorées que vous voyez, qui les coincent un peu de part et d'autre du fauteuil dans lequel elles sont assises. Eh bien, ces deux femmes, c'est Marie-Thérèse le matin, Dora l'après-midi. Et il y en a eu plusieurs comme ça. À Royan, il y avait un canapé, et Marie-Thérèse posait le matin, et Dora l'après-midi. Tandis que Marie-Thérèse était cachée dans une autre villa de Royan, et que Dora avait la première place. Bon, revenons à Dora. Vous vous rappelez les lignes et les couleurs de Marie-Thérèse? Quand on dit que la peinture de portrait de Picasso est autobiographique, ben voilà, vous voyez que pour Dora, il utilise un autre langage. Car ses sentiments à l'égard de Dora sont tout à fait différents de ceux à l'égard de Marie-Thérèse. Et donc, pour Dora, les lignes droites, les espaces anguleux, les couleurs intenses, saturées, qui nous donne ici une image extrêmement élégante, un port de tête superbe, où la face solaire, le jaune, est très présent, qui rejoint quelque part l'expression de la photo. Quelque part. Vous voyez, dans une expression forte d'une femme qui est marquée par ces lignes acérées. Et bien, ces lignes acérées, on va les retrouver partout. Et on va les retrouver dans ce leitmotiv qui parsème la vie et l'œuvre de Picasso à partir de 1936, début de la guerre d'Espagne. Picasso vit et travaille en France, mais il a été nommé par le gouvernement républicain espagnol en lutte contre Franco. Il a été nommé conservateur du Prado. Hommage fait à Picasso, et la figure de la pleurante, de la femme qui pleure dans les sociétés méditerranéennes, est au cœur même de cette culture générale de la société que Picasso a vécue depuis l'enfance et qui va faire sienne. J'ai une belle-fille qui est espagnole et qui me disait, on parlait un jour de... Excusez-moi, je fais juste une petite parenthèse, mais on parlait un peu un jour de la femme qui pleure et elle m'a dit que même dans sa génération, lors d'enterrements d'amis de ses parents ou autres, elle a plein d'amis qui pleurent littéralement. C'est une expression encore du deuil relativement importante. Alors, la femme qui pleure va revêtir l'apparence de Dora. Alors on a dit, mon Dieu, mais c'est pas possible, la pauvre Dora, elle doit pleurer tout le temps. Non, 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 il faut pas faire cette interprétation beaucoup trop rapide. Alors pourquoi on dit Dora? Ben parce qu'elle en a les lignes, les couleurs et la tenue. Et notamment ces petits chapeaux, un petit peu comme les petits chapeaux qu'on a vus tout à l'heure, de Nuche et Luard, la même élégance. Elle a ces lignes qui, vous voyez, sont des lignes obliques, notamment les obliques sont extrêmement présentes. Et elle a la coiffure générale avec ses cheveux bruns, très bruns, et qui tombaient à peu près aux épaules. Donc, couleur intense, saturée, ligne oblique et allure générale, c'est Dora qui va servir d'élément à la femme qui pleure. Et il va en faire de très très nombreuses variantes qui seront au cœur de toute la tragique histoire de la guerre civile et des débuts de la Seconde Guerre mondiale. Mais il suffit que Picasso change d'humeur à propos de Dora pour que Dora, comme ici, au jardin, Dora au jardin, pas portrait. Vous avez vu comme il n'aime pas le mot portrait. Dora au jardin, 1938, pour que ce portrait change complètement d'expression, si l'on peut dire, même si nous avons toujours les obliques et les couleurs saturées et la coiffure. Nous avons les éléments du langage, Dora. En revanche, la composition est très brillante, très recherchée, dans des éléments, on ne va pas aller dans le détail, on pourrait voir quantité d'éléments. Vous voyez par exemple comment il évoque le jardin. Les éléments stylisés de part et d'autre, hein, les petits arbres, les arbrisseaux si l'on veut. Vous voyez qu'il n'y a pas de profondeur, le ciel et la terre sont réunis par ces arbrisseaux, mais que nous avons une idée, une petite idée d'une éventuelle profondeur par les plantes qui se trouvent derrière les jambes. Alors regardez les jambes, comment elles se tiennent. Enfin, c'est la période surréaliste et il ne s'agit pas, bien sûr, de rechercher une anatomie crédible. Avec la guerre, disparaît plus ou moins Dora et apparaît cette toute jeune femme artiste, peintre, Françoise Gillot. Françoise Gillot, dont la jeunesse va séduire un peintre vieillissant. Nous sommes dans les années 50. Picasso est né en 1881. Vous voyez qu'il n'est plus tout jeune, mais qu'il a l'habitude de vivre avec des jeunes femmes beaucoup plus jeunes que lui. Voilà une photographie de Françoise Gillot, et je vous invite à bien la garder en tête. Vous allez voir pourquoi, combien la photo est un des éléments du portrait peint. Alors, voilà des portraits de Françoise Gillot. J'ai juxtaposé deux portraits, mais qui ont des points communs énormes, vous voyez, ils sont très proches, et qui insistent sur cette coiffure. Vous avez vu les lignes qui encadrent, tandis que, là encore, les éléments de la morphologie du visage sont loin d'être ceux de Françoise et plus d'une figure générique. Et voilà le célèbre, très célèbre, portrait de Françoise Gillot, intitulé Portrait de Françoise, pardon, Femme Fleur, Françoise Gillot, entre parenthèses, là il donne même le nom, 1946. Vous remarquez donc l'hésitation, plus qu'hésitation, le refus de Picasso de nommer beaucoup de ses portraits portraits, le refus d'identifier très souvent la personne évoquée, on ne va pas dire représentée, parce qu'elle n'est pas représentée, mais la personne évoquée, qui procède de cette profonde ambivalence qu'il y a chez lui, ce refus de nommer, d'encadrer les faits par une ligne au-delà duquel tout est défini, et une fois pour toutes déterminé. Il déteste ça. Il veut laisser ouvert les possibles interprétations. Il veut laisser le spectateur aller à la découverte de son tableau. De ce côté-là, on comprend mieux comment les titres donnés à ces portraits peuvent varier. Alors, pensez aux représentations de Marie-Thérèse en 1932, année érotique. Pensez à la représentation de Françoise. Vous avez là deux images poétiques, profondément poétiques. Une femme fleur, d'un côté. Une femme, comment pourrait-on l'appeler ? Alanguie. Je ne saurais trouver l'adjectif, à vous de le trouver, dans le cas de Marie-Thérèse. Vous voyez les concepts qui sont derrière. Donc, vous voyez que on va au-delà des sentiments qu'éprouve Picasso, qui trouve des formules plastiques qui vont correspondre, pour lui, à l'image de Françoise, de Marie-Thérèse ou d'autres. Voilà ce portrait conceptuel, et vous comprendrez après tout ce qu'on vient de voir, qu'il a rompu les digues complètement avec une forme de portrait classique que Picasso n'a pas pour autant, une fois pour toutes, rejeté. Vous avez vu qu'il y en a un certain nombre. Alors regardez celle-là, elle est absolument magnifique. Ah, celle-ci est beaucoup, beaucoup moins recherchée dans les concepts tête de femme, encore une fois, entre parenthèses, Françoise, 1946, la femme lune. Voyez, regardez cet intérêt passionné qu'avait Picasso pour les volumes, pour la sculpture. C'est d'une inventivité extraordinaire entre peinture et sculpture, entre représentation et conceptualisation. Voyez ça. Et là, il est là au milieu. Ça, c'est du Picasso craché. C'est quand on est devant ce tableau, on y reste un petit moment et puis après, on en a plein les yeux. Il nous reste à évoquer Jacqueline, qui est celle qu'il a le plus représentée, qu'il connaît dans les années 1954 et qu'il épousera, puisque la seule qui était pour l'instant Madame Picasso était Olga Koklova. Et Jacqueline, qu'il a rencontrée à Valoris, et qui va vivre les 20 dernières années de la vie de Picasso, qui meurt à 91 ans, en 72, 73, 91, 92, 73, et encore une fois, elle était de loin, elle avait 24 ans lorsqu'il l'a rencontrée. Vous voyez que ça fait une différence colossale. Bien, alors, cette photo-là, encore une fois, pour que vous voyez, c'est une photo qui a été prise dans les arènes d'Arles. Dans les années 60, Picasso adorait la tauromachie. Et il y avait à l'époque, à Nîmes et en Arles, des corridas au printemps et à l'automne. Donc, une de ces photos de Jacqueline Jeune, qui insiste sur l'extrême classicisme de son visage. Vous voyez, dans la répartition des plans, la beauté du nez par rapport à la forme générale du visage, une très jolie femme, et on retrouve à ses côtés le visage que l'on connaît bien de Picasso. Eh bien, voilà un des portraits. C'est la plus représentée de toutes les femmes de Picasso. Nous avons le plus de portraits d'elle. On en a en 1963, il avait rencontré en 1954, on estimait qu'il y avait 160 représentations de Jacqueline. C'est vous dire, voyez. Donc, très très représentée. Madame Z, rien à voir avec des Z actuels. Jacqueline aux fleurs. Alors, on a l'impression qu'il est allé chercher les statues cubes égyptiennes. Là. Vous voyez, c'est amusant, cette façon dont il fait un cube du corps, des bras, des jambes, des genoux, et puis qu'il étire le cou comme celui d'une girafe pour définir son visage dans le haut, dans une image extrêmement gracieuse, qui pourrait être celle, en effet, de la femme aux fleurs, la femme au jardin, qui est un type d'image qui résulte de toute sa période surréaliste et de son retour dans ces années-là à quelque chose de peut-être plus traditionnel. Jacqueline aux fleurs, 1954. Alors là, s'il n'y a pas Gréco, je voudrais bien être pendu. Hein. Regardez. Aïe, aïe, aïe. C'est, je vous rappelle, des trois grands, Goya, Velázquez et Gréco, c'est le dernier qu'il a découvert à Madrid à la fin de l'année 1916. Non, un peu plus tard, enfin le dernier. Il a été fasciné par Velázquez, puis il a connu Goya, qu'il a découvert, et il va contribuer beaucoup par sa découverte de Gréco à faire connaître Gréco, qui à l'époque était pratiquement inconnu. Donc, vous voyez les diverses sources auxquelles il s'abreuve, qui sont des sources traditionnelles de la culture espagnole, mais aussi d'autres. Dans ce très beau portrait de Jacqueline au foulard noir, et qui date de 1954. Ah, ça. Ah là là, ça c'est beau. C'est peut-être le plus émouvant, pour moi en tout cas. Pour moi, c'est le plus émouvant. Il est intitulé Petit buste, car le format est en effet petit. C'est une gravure magnifique. C'est une litho sur papier de 1962. Jacqueline. Quelque chose d'un tremblement, d'une inquiétude, d'une angoisse, de quelque chose de sous-jacent s'exprime dans cette perception traduite sous forme plastique qu'en a Picasso. Alors, dernière image de Jacqueline, il va utiliser Jacqueline comme un élément d'un retour au grand maître du passé. Et vous savez qu'à la fin de sa vie, il est beaucoup allé chercher chez Delacroix, chez Manet et chez d'autres des éléments de réflexion sur son art. Et chez Delacroix, Femme d'Alger a été un tableau qu'il a travaillé par des dizaines et des dizaines, soit de gravures, soit de peintures à l'huile, soit de grandes compositions comme celle-ci, qui date, si je me souviens bien, de 1955, Les femmes d'Alger d'après Delacroix. S'agit-il d'un portrait ? On peut se poser la question, légitimement, car si Picasso ne nous dit jamais que c'est un portrait, ben, il faut peut-être le suivre. Et vous voyez que l'histoire de l'art a plutôt pris le contre-pied. On ne le suit pas, on cherche qui c'est. Et il est vrai que c'est une question qui n'est pas tout à fait résolue et que bon, les spécialistes ont parfois des soirées de travail sur ce sujet. Je ne suis pas parmi ces spécialistes, donc je ne vais pas répondre à la question. Mais on peut se poser la question, quoique Jacqueline, dans son port de tête, ce soit quelque chose qu'on retrouve tout à fait chez elle et qu'elle constitue l'une des femmes d'Alger que Picasso utilise dans ce souvenir du grand tableau de Delacroix. Alors, je voudrais que l'on termine avec ce dessin qui, à la limite, mériterait que je me taise, tellement il est émouvant. Dessin. Je vous donne quelques éléments. Autoportrait. Crayon à la cire, 1972. Je vous rappelle qu'il est mort en 1973. Et nous avons deux autoportraits, dont celui-là, qui sont réalisés avec des crayons. Il n'est plus à même de tenir le pinceau comme il faut. Il n'a plus les moyens de son grand âge pour réaliser des grandes œuvres peintes, mais on peut encore dessiner crayon à la cire. Et vous voyez, cet autoportrait, c'est comme un galet sur un soubassement qui va donc le galet s'ébranler d'une façon ou d'une autre, voire tomber, tandis que ce galet reprend des éléments de la figure jeune que nous avons vu, les traduit autrement. Vous voyez qu'il a enlevé tous les cheveux, qu'il a définitivement enlevé l'ovale d'un visage pour accentuer les yeux et le nez. Tandis que tout le reste rappelle des portraits passés sur lesquels je ne m'arrêterai pas. Vous voyez que ses yeux sont, là encore une fois, différents l'un de l'autre. Vous voyez sur la gauche l'œil rempli de rouge. On pense qu'il s'agit peut-être de l'évocation du sang, mais le rouge est partout. Vous voyez, comme pour les cheveux, pour la bouche. Tandis que l'expression d'effroi, un effroi irrépressible, s'empare du visage. On sait que Picasso avait très, très peur de la mort. Extrêmement peur. Je crois que cette image-là n'est pas plus très conceptuelle elle se rapproche de l'homme et du créateur. J'espère que vous avez appris plus de choses sur Picasso, et si vous aviez deux ou trois questions à poser, dans la mesure de mes moyens, j'y répondrai volontiers.
Et comme vous vous y invitez, Claudine, je prendrai deux questions. Nous prendrons deux questions, s'il y en a. Ah, Mireille, je t'écoute. Mais Mireille, c'est une question, d'accord ? En forme de question.
J'aimerais savoir si Picasso a dit... quelle œuvre ou quelles œuvres il considérait comme son ou ses chefs-d'œuvre, s'il vous plaît.
Excusez-moi, j'ai mal compris.
Quelles œuvres considérait-il comme ses chefs-d'œuvre ou son chef-d'œuvre ?
Pas que je sache. Pas que je sache, ça lui ressemble pas vraiment. Mais je, encore une fois, je connais bien Picasso, mais je suis quand même pas la spécialiste, donc peut-être qu'il y a quelque part quelque chose comme ça qui aurait été dit. Vous avez vu, son talent est tellement multiforme qu'il est difficile de cerner une chose et de lui accorder un primat sur toutes les autres. Oui. Pardon ?
Ben oui, c'est ce qu'elle répond.
Oui, et oui.
Non. Une autre question ? Nous restons sur ce portrait, dont j'espère qu'il ne va pas nous poursuivre. Parce que, franchement, pour moi, qui ai beaucoup vécu en Afrique, pour moi, ce portrait, il a quelque chose du vieillard africain. Et j'en ai beaucoup rencontré comme cela. Il a la tête du vieillard africain, mais en même temps la tête du sage. Il y a un côté, c'est vrai, hein, il y a un côté sage dans ce portrait. Enfin, pensons plutôt aux femmes qu'il a aimées, qu'il a portraiturées, voilà. Ce sera quand même un peu plus gai. Voilà, on vous remercie encore, Claudine, voilà. Infiniment. Voilà. Et nous...